RFI, 10h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Sébastien Duhamel.
Et c'est parti pour le dernier journal africain de votre matinale. Et on débutera avec cette vidéo publiée hier sur Internet. Un discours de Joseph Kabila diffusé après la levée de son immunité parlementaire par le Sénat à Kinshasa. Depuis son exil, l'ex-président congolais annonce son arrivée prochaine à Goma et il affirme qu'il est temps de mettre un terme à la dictature en RDC alors que certains de ses proches se sont fait arrêter justement. Nouveau rebondissement en Guinée dans la crise qui secoue l'UFDG de Sélood, Alain Diallo. La justice ordonne la réintégration d'Ousmane Gawal Diallo, actuel porte-parole du gouvernement. Au Niger, la libération de Gamatié Mahamadou Yonsanbou, le secrétaire général de l'Union des travailleurs du transport et assimilé. L'Afrique, désormais premier continent d'origine des immigrés qui arrivent en France, résultat d'une étude de l'Institut français des statistiques réalisée entre 2006 et 2023. Et puis, cette mission scientifique pour lutter contre la pollution plastique dans les mers et les océans. Une équipe de chercheurs vient de prendre la relève à bord de l'Odyssée Plastique, un navire au large des Seychelles. Nous serons avec eux. Des décisions arbitraires, une falsification de l'histoire et un recul spectaculaire de la démocratie. Les mots et la sortie très remarquée de l'ex-président de RDC, Joseph Kabila, qui a publié hier un discours de quelques 45 minutes sur Internet, au lendemain, je le disais, de la levée de son immunité parlementaire par le Sénat, alors que la justice militaire souhaite le poursuivre pour complicité avec la FCM-23. Joseph Kabila annonce qu'il se rendra dans les prochains jours à Goma, la capitale du Nord Kivu, justement contrôlée depuis janvier par les hommes de la FCM-23. Et pendant ce temps, certains de ses anciens proches ont quant à eux été arrêtés, à savoir le général Pierre Bani-Wézier, longtemps chef de la sécurité de l'ancien président, et Martin Kabouéloulou, ex-ministre des Mines, originaire du Katanga. Explication, Patient Ligoti.
Vers 3h du matin, des équipes d'agents civils et en treillis ont fait irruption au domicile de Martin Kabouéloulou, 77 ans, ancien ministre des Mines durant plus d'une décennie. Selon les sources sécuritaires, l'opération s'est déroulée sans violence. Martin Kabouéloulou a été conduit au Conseil national de cyberdéfense. Son épouse, ancienne députée, a brièvement été embarquée dans le même véhicule avant d'être relâchée pour regagner le domicile familial. L'un de leurs enfants a pu lui rendre visite. L'avocat, en revanche, n'a pas été autorisé à entrer. D'après plusieurs sources sécuritaires, l'ancien ministre a été interrogé notamment au sujet des carrés miniers qui appartiendraient à Joseph Kabila. Les autorités congolaises ont déjà évoqué la possibilité de saisir des biens liés à l'ancien président et à son entourage. Autre arrestation, celle du général Pierre Bani-Wézié. Selon des sources familiales, il se trouvait à Kinshasa pour solliciter une autorisation de soins à l'étranger. L'ancien chef de la garde rapprochée de Joseph Kabila est aujourd'hui commandant en second du secteur opérationnel du Haut-Ouélé. À ce stade, les lieux et les conditions de sa détention restent inconnues.
Patient Ligoti, sur la scène politique guinéenne à présent, nouvel épisode dans la crise interne à l'UFDG, le parti de Sélood Alain Diallo, exilé depuis 3 ans. En effet, un tribunal de Conakry a ordonné hier au parti de réintégrer Ousmane Gawal Diallo, actuel porte-parole du gouvernement. Il avait été exclu en 2022 pour avoir rejoint les autorités de transition et n'avoir pas respecté les directives de sa formation. Il estimait, lui, cette décision illégale. La justice lui a donc donné raison. Il souhaite désormais se présenter lors du congrès à venir, mais le feuilleton n'est pas fini. Ici, l'UFDG annonce son intention de faire appel, Tanguy Billon.
Si Ousmane Gawal Diallo salue la décision du tribunal du Dixin, du côté des fidèles à Sélood Alain Diallo, on parle d'acharnement politico-judiciaire contre le parti et on estime la justice instrumentalisée par le CNRD. L'UFDG va contester la décision de réintégration d'Ousmane Gawal et interjettera appel ces prochains jours, précise un cadre du parti. Et selon ce même responsable, l'UFDG envisage d'organiser son congrès au mois de juillet à Conakry. Un congrès auquel Ousmane Gawal Diallo a l'intention de participer pour briguer la présidence de la formation. Mais, avant le congrès, il demande des préalables, la réintégration de certains cadres fédéraux relevés de leurs fonctions. Sinon, prévient-il, il attaquera de nouveau le parti en justice. Dans une vidéo devenue virale sur Internet, on voyait l'un de ses secrétaires fédéraux remercier Mamadi Doumbouya pour lui avoir fait don d'un pick-up. Reste à savoir maintenant si l'UFDG pourra organiser son congrès, si la formation fait appel et que l'affaire fait son retour devant les tribunaux. Tanguy Billan, Conakry, RFI.
Au Niger, affaire classée sans suite pour le secrétaire général de l'Union des travailleurs du transport et assimilé l'UTAN. Gamatier Mahamadou Yansonbou est en effet ressorti libre hier après une nouvelle convocation par la police à Niamey où il a passé 3 jours en garde à vue cette semaine. La veille de sa première convocation, son syndicat de transporteurs avait publié un communiqué pour dénoncer l'attaque d'un convoi dimanche sur l'axe Dori au Burkina Faso et Tera au Niger. Une route dangereuse, empruntée par les chauffeurs routiers depuis la fermeture de la frontière avec le Bénin, afin d'acheminer jusqu'à Niamey les marchandises qui arrivent par le port de Lomé, au Togo. L'UTAN, dans ce contexte, interpelle les autorités nigériennes, Magali Lagrange.
Une énième tragédie en fin de semaine dernière sur l'axe Dori-Tera. Cette attaque contre un convoi de ravitaillement a coûté la vie à 3 conducteurs. Plusieurs autres ont été blessés par balles, dénonce l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger dans son communiqué. On perd des camarades, des amis, confie une source proche du syndicat qui énumère les nombreuses difficultés des conducteurs routiers sur cet axe dangereux via le Burkina Faso. Le trajet est long, plusieurs mois sans voir la famille, en n'étant pas certain de rentrer en bonne santé, des temps d'attente sans commodité, exposés au soleil, ce qui ajoute au stress et à la fatigue. Les camions sont parfois brûlés, ce qui entraîne des complications avec les banques et les assureurs. Le syndicat interpelle les autorités nigériennes. L'UTAN demande d'urgence des mesures pour sécuriser les axes sensibles, surtout ceux que les convois de ravitaillement empruntent régulièrement. Il y a 6 mois, il avait déjà dénoncé des attaques contre des routiers et plaidait alors pour la réouverture de la frontière avec le Bénin, une route plus courte et plus sûre jusqu'au port de Cotonou.
Explication de Magali Lagrange. L'Afrique est désormais le premier continent d'origine des émigrés arrivant en France. C'est l'un des enseignements d'une étude de l'Institut français des statistiques sur des données entre 2006 et 2023. Il y a 2 ans, 45% des nouveaux arrivants étaient africains. C'est la part des immigrés d'Afrique subsaharienne qui a le plus augmenté dans ces chiffres ces dernières années. Mais l'Algérie, le Maroc et la Tunisie occupent toujours les 3 premières places du podium. Entre enseignements, les immigrés africains sont de plus en plus diplômés, comme nous le détaille Chloé Parizet, co-auteur de cette étude.
Ce qu'on constate dans notre étude, c'est que à la fois l'Afrique représente une part plus importante des entrées aujourd'hui, mais aussi que le niveau de diplôme des immigrés nouvellement arrivés sur le territoire, et notamment des immigrés nés en Afrique, augmente entre 2006 et 2023. Plus d'un nouvel immigré né en Afrique sur 2 est diplômé de l'enseignement supérieur en 2023. On peut émettre en tout cas 2 hypothèses. D'une part, une élévation du niveau de diplôme dans leur pays d'origine, et d'autre part, aussi une immigration qui est sélective, c'est-à-dire que pour émigrer, donc pour partir de son pays, il faut aussi avoir des ressources, et le diplôme constitue une ressource importante pour vivre dans le pays d'accueil, donc des ressources économiques, mais ça peut être aussi des ressources humaines, des relations dans le pays d'accueil, mais aussi des ressources, effectivement, pour obtenir un visa en France.
Chloé Parisset de l'INSEE. Une mission ô combien importante pour la préservation des mers et des océans, menée par le navire Laboratoire Plastique Odyssée, qui, comme son nom l'indique, est dédié à la lutte contre la pollution plastique, recyclage, prévention. Un navire qui vient de changer d'équipage, en effet, au large de l'île Mahé, hier aux Seychelles. Après 2 ans et demi de navigation, sont montés à bord des chercheurs mauriciens, seychellois, malgaches et français. Un passage de relais suivi, pour nous, par Sarah Teto.
C'est à la corne de brume que le navire salue les nouveaux arrivants et remercie ceux qui le quittent. Après 1 mois de navigation dans les eaux de l'océan Indien occidental, l'équipe à bord effectue sa relève. Franck Legras, le commandant sortant du navire, fait la passation avec son successeur, Johan Long.
Les conseils, c'est de valider auprès des autorités portuaires pour pouvoir mettre le Zodiac à l'eau et pour aller faire les prélèvements. L'île Sainte-Anne, c'est une île privée, tu n'as pas accès à l'île, inland. Par contre, tu as accès à la plage, ce sera le message à passer aux scientifiques qui vont sur la plage.
Originellement, le navire plastique Odyssée héberge une micro-usine de recyclage de plastique. Pour cette toute première mission scientifique, un laboratoire a été spécialement installé à bord pour permettre de mener les différentes études.
On est donc parti pour une petite semaine de campagne océanographique aux Seychelles.
Thierry Bouvier, le chef de la mission scientifique, rappelle les objectifs de chacun.
On va pouvoir déployer toutes nos opérations, donc des opérations de dégradabilité des plastiques, on va récupérer des macroplastiques et des microplastiques dans les lagons et à l'extérieur du lagon, et puis on va aussi récolter du plancton pour regarder un petit peu ce que ce plancton consomme en termes de microplastiques.
Des études inédites qui devraient permettre de décrire les trajectoires de dérive des déchets plastiques dans l'océan Indien, d'estimer leur quantité, ainsi que les risques associés sur la santé humaine. Sarah Teto, La Digue, RFI.
Allez, avant de vous laisser retrouver vos programmes, un mot sur ce décès, bien sûr, qui attriste la croisette. Alors que le mythique Festival de Cannes s'apprêtait à lui rendre hommage hier, 50 ans jour pour jour après qu'il a reçu la Palme d'Or. Le réalisateur algérien Mohamed Lardar Amina nous a quittés à l'âge de 95 ans. Le festival de Cannes qui se poursuit et se refermera tout de même ce soir. Cérémonie à suivre à 18h en temps universel sur RFI. D'ici là, la suite de vos programmes.